Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Récemment, nous avons abordé le thème « Dieu est amour ». Et aujourd'hui, nous allons continuer notre série de discussions sur le sujet « Comment le chrétien doit-il aimer à son tour ?»
Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on ? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grain. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste.
Vous venez d'écouter la lecture de l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 16. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui va nous enseigner sur la façon dont nous pouvons véritablement aimer notre communauté, c'est-à-dire notre quartier, notre voisinage ou notre village. Notre invité Jean-Marc va nous guider dans nos réflexions.
Bonjour Yann et bonjour à tous. Alors, comment aimer le monde dans lequel nous vivons? Du moins, comment aimer le lieu où nous habitons? Je pense que le texte qui vient d'être lu nous offre un bon point de départ, car nous y trouvons deux images, le sel et la lumière. Ces deux images décrivent en quelque sorte la manière dont celui qui veut suivre Jésus devrait manifester de l'amour dans ce monde, souvent difficile et malheureux. Vers la fin du texte lu, Jésus parle du bien que vous faites. Du bien que vous faites. Nous pouvons ainsi affirmer que le bien que nous faisons envers tous ceux qui nous entourent est comme ce sel et cette lumière que Jésus évoque.
Parlez-nous donc de la signification de ces deux images.
Prenons d'abord l'image du sel. À l'époque de Jésus, il n'y avait bien évidemment pas de réfrigérateur. Alors pour préserver les aliments tels que la viande, le poisson, on y répandait du sel afin qu'il ne s'avarie pas. Ceci se passe encore de nos jours pour bien des produits, car le sel ralentit la corruption de certains aliments.
Mais comment traduire cette image sur le plan de l'influence du chrétien dans la société?
Nous savons que sans Dieu, les hommes et les femmes glissent facilement dans la pratique du mal. De plus, le péché génère énormément de souffrances autour de lui, causant la détérioration de la qualité de vie morale et sociale de toute une population. Mais dans un tel contexte, les chrétiens et les églises qui pratiquent le bien exercent une influence positive, pouvant ralentir ce mal et même contribuer à une amélioration de la situation. Ainsi, à l'image du sel, les chrétiens procurent le bien à l'endroit même où ils vivent.
Vous parlez de faire du bien, mais pratiquement, qu'est-ce que cela signifie? Quelles bonnes œuvres faut-il accomplir?
Il est difficile de donner une réponse précise. Chaque village ou chaque quartier a des besoins qui lui sont propres. De même, chaque chrétien ou chaque église a des dons, des capacités, des ressources qui lui sont propres. Toutefois, selon moi, faire du bien implique deux grandes orientations. D'abord, l'exemple d'une vie juste, c'est-à-dire d'une vie vécue selon les desseins de Dieu. Dieu nous demande de vivre avec intégrité, de dire la vérité, et il nous demande d'être honnête. Parfois, cela peut être difficile, mais les gens nous voient, ils regardent ce que nous faisons, et certains se remettront peut-être en question si notre exemple les frappe. De même, Dieu nous demande d'être intègres et fidèles dans nos relations personnelles. Il nous demande de nous abstenir de la violence et de la vengeance. Une vie juste, réellement vécue, peut avoir une influence positive sur ceux qui nous entourent. Elle peut les encourager à se détourner du mal et à pratiquer le bien.
Et quelle est la deuxième grande orientation que vous voulez évoquer?
Il s'agit d'accomplir des actes d'amour envers les nécessiteux. Là encore, les besoins peuvent beaucoup varier selon l'endroit où nous vivons. Mais nous devons être conscients de ce qui se passe autour de nous et réfléchir à la manière dont nous pouvons contribuer à faire du bien, de façon très pratique, à ceux qui sont dans la difficulté ou le besoin. Cela peut aller de décisions faciles à réaliser, telles que rendre visite à un voisin malade ou aider une personne âgée. Cela peut inclure des engagements plus importants, tels qu'être impliqué dans un programme portant secours à des orphelins ou aidant la réinsertion des chômeurs. Ce ne sont que quelques exemples parmi d'autres. Mais ce genre d'action peut contribuer au bien-être d'un village ou de tout un quartier.
Merci Jean-Marc de nous avoir si bien expliqué cette image du disciple qui peut agir en tant que sel dans le monde. Mais passons à présent à la deuxième image, celle de la lumière.
Oui, et la leçon essentielle est très simple. Il nous faut vivre notre foi chrétienne de façon visible. Les gens qui nous entourent doivent comprendre que nous sommes chrétiens, que ce soit à travers notre façon d'agir ou de notre conduite. Une bonne lumière nous permet de voir distinctement autour de nous. Grâce à elle, la nuit, nous pouvons nous promener chez nous.
Mais si le chrétien est une lumière, que permet-il aux autres de voir ?
Dieu lui-même. Citons de nouveau le texte lu au début. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Le bien que nous pratiquons, l'amour que nous manifestons, doivent diriger les regards de ceux que nous côtoyons vers notre Dieu qui est un Dieu d'amour. Ainsi, les uns et les autres doivent comprendre que nous sommes chrétiens. De plus, s'il est bon d'aider des personnes sur les plans matériels et physiques, social et psychologique, il est encore plus important d'aider ces personnes sur le plan spirituel. En cela, pratiquer le bien ou aimer son village ou sa ville, c'est aussi parler de l'Évangile et de Dieu, c'est aider les gens à comprendre qui est Dieu, ce que Dieu offre et la façon d'y répondre.
Merci Jean-Marc, et j'ai une dernière question à vous poser. Le texte lu évoque le sel qui peut perdre sa saveur et les lumières qui peuvent être cachées. Que devons-nous en apprendre ?
Tout simplement que le chrétien qui ne pratique pas le bien comme nous l'avons défini aujourd'hui ne sert plus à grand-chose. Une telle situation, selon Jésus, est absurde, inconcevable. Le chrétien existe pour faire connaître Dieu en menant une vie consacrée à la pratique de l'amour. C'est l'une de ses raisons d'être. Or, le chrétien peut compromettre son témoignage de deux façons. D'abord, il peut cacher le fait qu'il est chrétien. Si personne ne sait que nous sommes chrétiens, il ne sera pas possible aux hommes d'apercevoir la gloire et l'amour de Dieu dans nos vies. Ensuite, et voilà peut-être le cas de figure le plus grave, une personne peut déclarer qu'elle est chrétienne sans pour autant mener sa vie selon les desseins de Dieu, sans pour autant pratiquer l'amour. Or, là où il existe une contradiction entre la conduite d'un chrétien et ce que Dieu et les autres attendent de lui, l'Évangile et l'Éternel sont déshonorés.
Nous voulons donc conclure sur cette note d'avertissement, mais retenons aussi la leçon pour aujourd'hui sur la pratique du bien et de l'amour de Dieu. Nous pouvons, chacun à notre échelle, exercer une influence positive sur les gens qui nous entourent, et là où nous vivons, nous pouvons montrer la gloire de Dieu.
Comme nous venons de parler de l'amour du chrétien, nous voulons à présent réfléchir sur l'amour de Dieu.
Ainsi, tout au long de cette série, nos méditations bibliques porteront sur les images de l'Ancien Testament donnant un aperçu de cet amour. Écoutons pour cela les paroles du prophète Ésaïe, chapitre 43, versets 1 à 3. Ensuite, Alain nous fera part de ses réflexions sur ce texte.
Maintenant, l'Éternel qui t'a créé au peuple de Jacob et qui t'a façonné ô Israël, te déclare ceci. Ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal, et tu ne seras pas brûlé. Puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu. le Saint d'Israël, ton Sauveur.
La dernière fois, nous avons parlé des eaux, du fait qu'elles représentent les épreuves que nous pouvons traverser dans la vie. Or, ces épreuves s'accompagnent d'une promesse, celle que l'Éternel demeurera avec le croyant, quelles que soient ses circonstances. Et aujourd'hui, nous allons tourner notre regard sur la deuxième partie de ce verset. « Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal et tu ne seras pas brûlé, puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, ton Sauveur. » Vous pouvez vous demander, l'image du feu ne représente-t-elle pas la même idée que celle des eaux ? La leçon qui se dégage ici n'est-elle pas essentiellement la même ? L'Éternel demeure avec nous, même dans les moments les plus douloureux de notre vie. Oui, ceci est vrai. Dans la poésie biblique, nous découvrons une succession d'images qui renforcent la certitude que Dieu demeure avec nous dans nos épreuves. Lorsque nous souffrons, il nous est parfois difficile d'admettre que Dieu nous accompagne dans notre affliction. Alors l'Éternel insiste, il le répète, il veut nous assurer du contraire. Dieu est avec nous et nous ne devons pas en douter. Toutefois, je me demande si cette deuxième image, celle du feu, n'ajoute pas une notion à la première. Souvent dans la Bible, le feu est représenté comme un élément purificateur. Nous savons par exemple que pour purifier des métaux précieux comme l'argent et l'or, il faut les passer par le feu. Le fait de faire fondre ces métaux dans une forte chaleur permet aux impuretés de remonter à la surface, d'où il devient possible de les enlever. Ainsi, quand le métal refroidit, il paraît beaucoup plus pur qu'auparavant et revêt plus de valeur. Le prophète Ésaïe voulait donc nous faire comprendre que l'enfant de Dieu, en passant par le feu, en sortirait purifié. C'est en tout cas ce que je pense. Autrement dit, les épreuves peuvent servir avec l'aide de Dieu à fortifier notre foi et à nous accorder plus de maturité dans notre vie de disciple. Dieu est avec nous, au sein de l'épreuve, afin que ces expériences négatives et douloureuses produisent des fruits positifs et bénéfiques dans notre vie. Dieu, dans son amour, est avec nous pour changer le mal en bien. Si un morceau d'argile pouvait ressentir la douleur, je pense qu'il trouverait insupportable d'être modelé pour devenir un vase. Et puis, imaginez ensuite son agonie de devoir passer dans la fournaise. Tout ceci pour faire de lui un objet de toute beauté. De même, Dieu désire façonner nos vies. Il désire nous recréer à l'image de son Fils Jésus. Ce processus est douloureux, mais il en vaut la peine. Or, voilà l'œuvre d'amour que l'Éternel accomplit dans nos vies et à travers toutes nos circonstances.
Merci Alain. En effet, au sein de l'épreuve, Dieu prépare en nous une œuvre d'amour, afin que nous puissions la surmonter et en sortir plus que vainqueurs.
La prochaine fois, nous terminerons nos deux séries sur le thème de l'amour et nous parlerons notamment de la pandémie du sida et de l'attitude qui devrait être celle du chrétien envers son prochain confronté à un tel contexte.
En attendant de vous retrouver, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.